Radio Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal. À la présentation, grâce à Mzati Massanzi, voici le sommaire. Les gardes du corps de la première ministre Judith Suminwa sont accusés d'avoir tué un policier de la circulation routière ce lundi à Kinshasa. La police nationale congolaise annonce dans un communiqué que des enquêtes sont ouvertes pour identifier les auteurs de cet acte afin qu'ils subissent la rigueur de la loi. À Ituri, les forces armées de la RDC et l'armée ougandaise UPDF sensibilisent depuis ce lundi des leaders communautaires pour la recherche d'une paix durable dans les territoires des Djougou. Objectif, amener les chefs traditionnels et leaders communautaires à sensibiliser à leur tour les jeunes des groupes armés à adhérer au processus de paix. Le monde a célébré hier 31 mars la journée zéro déchet des Nations Unies. Avec notre invité, Prince Ryan, nous allons justement parler de la transformation des déchets textiles en objets d'art. C'est un jeune membre d'une ONG qui s'en occupe dans la ville d'Egoma. Encore une fois, bonjour. Décès du brigadier de la première classe et membre de la police de circulation routière. La police nationale congolaise indique avoir ouvert une enquête sur les circonstances non encore élucidées de la mort de Kabeya Senda Fiston. Le policier des roulages est décédé le même lundi à Kinshasa. Étienne Lissoumbou.
Alors que la police ouvre son enquête, des allégations circulent sur les réseaux sociaux accusant les gardes du corps de la première ministre Judith Suminwa d'avoir battu à mort ce policier. Un agent de police anonyme, dans une vidéo virale partagée sur les réseaux sociaux, affirme que le défunt aurait été tué après avoir intercepté les cortèges de la première ministre pour une infraction routière.
Les cortèges de la première ministre avaient pris les sens uniques. Nous avons créé la route pour elle. 10 minutes après, les chefs de sécurité est revenu avec la suite. Ils ont pris les roulages, ils l'ont mis dans les véhicules et l'ont battu. Ils l'ont amené vers l'auditorat où il a rendu l'âme.
La police, pour sa part, qualifie cette vidéo de désinformation. Colonel Julien Mavungu explique.
Par rapport aux informations en circulation sur les réseaux sociaux, informations faisant état du décès du brigadier de première classe Kabeya Senda Fiston de la police de circulation routière ville de Kinshasa. Les circonstances de la mort n'étant pas encore élucidées, la police nationale congolaise appelle la population à ne pas céder à la manipulation et à la désinformation.
Tout en exprimant sa compassion à la famille du brigadier Kabeya Senda, la police appelle à la prudence et exhorte la population à ne pas céder à la manipulation.
À ce sujet, Maître Carlos Mopili, activiste des droits de l'homme, réclame un procès équitable pour le policier tué par la garde de la première ministre. Il dénonce aussi, suivant le témoignage du collègue des policiers, que le cortège de la première ministre roulait à sens contraire en violation du code de la route. Il a été joint au téléphone par Étienne Lissoumbou.
Nous sommes des défenseurs des droits de l'homme. Et nous sommes là pour défendre la vie humaine parce qu'elle est sacrée. Qu'importe qu'il soit policier ou ministre ou victime du M23. Parce que récemment dans notre pays, lorsqu'on est victime du M23, c'est là où on voit le ministre Mouyaya faire des tweets de compassion. Mais lorsqu'on est victime, la police ou les militaires congolais, là il n'y a pas de compassion. Nous parlons de la mort d'une circonstance infractionnelle et de façon qui doit être menée dans une procédure de flagrance. Et il y a un témoin, son collègue qui a vécu la scène d'enlèvement, des tortures, et il venait d'être informé du décès de son collègue. Comment on veut porter le problème sur le dos de l'auditorat alors que nous sommes tous conscients qu'au niveau du cachot de l'auditorat, on ne torture pas les policiers, on ne torture pas le détenu. Et comment ces policiers s'est retrouvé au niveau de l'auditorat? Pourtant, les cortèges de la première ministre qui roulait au sens contraire. Le cortège a violé les codes de la route.
Entre-temps, les religieux, toutes tendances confondues, se sont retrouvés hier aux consultations politiques. Le nonce apostolique, Monseigneur Ejibaya Mapia, à la tête des églises des réveils, ainsi que les représentants de l'église des autochtones ont échangé avec le conseiller spécial du chef de l'État, Eberhan Kolongele. Somme toute, ces églises privilégient la voie du dialogue. Elles invitent toutes les parties à rejoindre cet appel à mise en commun d'idées contre la guerre. D'autres précisions avec Billy Van Lutumba.
Le représentant du pape François n'a pas voulu faire des commentaires sur son échange avec le conseiller Bérand sur le pacte social pour la paix mené par la CENCO et l'ECC. Du moins, il estime primordial que l'ordre constitutionnel soit respecté.
Nous restons en contact rapproché pour clarifier les questions ouvertes. Aussi au sujet des prérogatives constitutionnelles du président de la République, Tshisekedi, et du respect de l'ordre juridique en RDC. C'est extrêmement important de se vraiment mettre au table et trouver des solutions dialoguées.
Après près d'une heure d'échange, les représentants des églises de réveil ont déclaré devant les médias qu'il est nécessaire que toute initiative à la paix puisse se greffer aux consultations afin de fédérer toutes les énergies congolaises contre l'agresseur. Et Jibaya Mapia.
Nous en appelons aux autres qui ne sont pas encore venus de pouvoir emboîter les pas et de venir à ces consultations et d'apporter leurs contributions, car tous nous avons un objectif commun, la paix pour la République démocratique du Congo, que ceux qui occupent une partie du territoire puissent quitter. S'il y a une quelconque initiative, elle doit se greffer à l'appel du chef de l'État, à tous les Congolais, à l'unité, à l'intégrité du territoire.
Pour leur part, les églises dites indépendantes des Noirs ou des Autochtones sont allées aussi dans le sens de l'union de tous les religieux pour que leurs prières concourent à l'unité et la paix en RDC.
Sécurité. À Ituri, les forces armées de la RDC et l'armée ougandaise UPDF ont lancé ce lundi une série de sensibilisations des leaders communautaires pour la recherche d'une paix durable dans les territoires de Djougou. Première étape de cette tournée, Fataki, à 110 km au nord de Bounia. Selon des sources sécuritaires, l'objectif est d'amener les chefs traditionnels et leaders communautaires à sensibiliser à leur tour les jeunes qui ont pris les armes à les déposer. Le point avec Martial Kizabiamongo.
On prit part à cette première rencontre tenue à Fataki. Le chef du secteur de Walindoujati et Piti, le chef de la chefferie de Baïma Badjiri, des notables venus de Boulé, Libye et Pimbo, des membres du comité local de sécurité de Fataki ainsi que des représentants des services de sécurité. Selon des sources sécuritaires, les FRDC ont d'abord expliqué aux délégués de la population l'essence de la mutualisation des moyens entre l'armée congolaise et les UPDF pour le maintien de la paix dans les territoires. Les mêmes sources indiquent que, de son côté, les commandants des troupes ougandaises basées à Bethléem, non loin de Fataki Centre, a invité les leaders communautaires présents à la rencontre à sensibiliser les jeunes qui ont pris illégalement les armes contre la République à les déposer pour ne pas subir la pression des opérations militaires conjointes qui vont bientôt être lancées par les deux armées. Cet officier ougandais a précisé que la présence de UPDF en Djougou n'est pas pour protéger telle ou telle communauté, mais pour permettre aux populations des différentes communautés de vivre en paix. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Pendant ce temps, des combats violents sont signalés ce mardi depuis le matin dans le groupement des Karongo-Nyangezi dans les territoires de Walungu, à une vingtaine de kilomètres au nord de la ville de Bukavu au sud Kivu. Les crépitements des balles se sont intensifiés jusqu'à Nyakabongola dans les territoires de Kabare. Nous sommes dans le groupement Moudoussa, localité Nyatende, se trouvant à la porte d'entrée de la ville. Les sources sur place affirment que les rebelles du M23 AFC et leurs alliés de l'armée rwandaise, fortement armés, effectuent des mouvements intenses vers les lignes de front. Ces combats reprennent deux semaines après l'assaut de Wazalendo sur les positions du M23 dans les mêmes zones de Nyangezi et Nyatende. Ici à Kinshasa, au moins 100 élèves de la 9e promotion de l'école nationale d'administration ENA ont été sensibilisés ce mardi sur les enjeux de la guerre dans l'est de la RDC. Cette session a été animée par le ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya dans la salle des conférences de cet établissement public à Kinshasa. Bien sûr, des élèves formés ont pris l'engagement d'accompagner le gouvernement dans la lutte contre la guerre d'agression. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Ces élèves de l'école nationale d'administration ont salué cet échange de plus d'une heure et disent avoir compris les stratégies menées par le gouvernement congolais pour mettre fin à la guerre d'agression qui couvre la partie est du pays. Pour Marie-Clémence Kangité, cette session a constitué un moment de prise de conscience qui leur a permis de prendre des décisions afin de défendre comme il faut les pays à travers plusieurs fronts engagés par le gouvernement.
Pour nous, c'était un moment de prise de conscience pour qu'à partir d'aujourd'hui, nous soyons des agents qui vont défendre notre patrie.
À cette occasion, le directeur général de l'ENA a encouragé ses apprenants à s'approprier les recommandations du gouvernement pour participer dans la lutte contre cette guerre. Tombola Mouké a également annoncé pour les prochains jours la publication d'une revue scientifique pour contribuer aux actions collectives contre la guerre d'agression. Pour sa part, le ministre de la Communication et des Médias s'est réjoui que ses futurs cadres de l'administration publique soient outillés sur les moyens et les stratégies du gouvernement dans les processus de pacification de la partie est de la RDC.
Il était important que ceux qui vont façonner les politiques publiques d'aujourd'hui et de demain puissent en comprendre les sensibilités et les détails.
Pendant ce temps, le gouvernement congolais a mis en place plusieurs fronts pour faire face à cette guerre, à savoir politique, militaire, diplomatique, scientifique et culturel.
Au Maïndombe, des vives tensions secouent ces derniers temps les communautés Nounou et Teke qui vivent déjà en conflit dans les territoires de Bolobo depuis février dernier à la suite des contestations de l'installation d'un chef coutumier Teke à Bolobo cité, chef lieu du territoire. Au moins 3 morts et près de 40 maisons incendiées signalées la semaine dernière dans cette cité à la suite de ces tensions. Pour l'instant, le gouverneur du Maïndombe séjourne à Bolobo pour restaurer la paix dans ces coins de la province. Les Bonko Sokevani lance à cet effet un message de paix et d'unité à la population en vue d'une cohabitation pacifique entre communautés. Il est au micro de Irène Bomalozolo.
Il y a un conflit intercommunautaire qui sévit ici dans les territoires de Bolobo entre les Nono, les Tété et les Tende Sionke. Nous sommes venus juste pour essayer d'atténuer cette situation parce qu'on ne peut pas parler développement là où il y a des conflits, on ne peut pas parler développement là où on est en train d'incendier les maisons des uns et des autres. Et c'était le vœu même de la population que nous puissions venir ici à Bolobo, échanger avec la population, voir dans quelle mesure trouver des solutions par rapport à ces conflits. Nous avons tenu le meeting. Le message à lancer auprès de la population, c'est de revenir. Ceux qui traînent encore par-ci, par-là, qu'ils puissent revenir parce que pour le moment, nous sommes en train de faire en sorte qu'il y ait vraiment une paix durable ici à Bolobo. Nous sommes encore là. Les mesures seront annoncées après que nous aurons eu à échanger avec le comité provincial de sécurité. Nous allons voir les options à lever par rapport à tout ce qui se passe. Le message que nous avons lancé à la population, le message de paix, le message de l'unité, une condition sine qua non pour le moment, c'est la paix. Nous n'avons pas besoin de la division, de messages de haine par des radios communautaires. Ça, nous n'en avons pas besoin au sein de nos communautés.
Pour l'autorité provinciale Nkosso Kevani, il s'agit bel et bien des manœuvres dilatoires de certains politiciens du Maïndombe mal intentionnés qui allument ces conflits. Il lance un avertissement aux tireurs de ficelles présumés de ces conflits leur demandant d'arrêter. En attendant, rappelons que cette province est aussi touchée par un autre conflit intercommunautaire entre les peuples Teke et Yaka dans les territoires de Kwamout depuis 2022. Le dit conflit en cours a déjà causé des milliers de morts, des déplacés et des blessés. Trop, c'est trop. La population de Kinshasa mérite un service public fiable et acceptable à tous. C'est en ces termes que la nouvelle société civile congolaise dénonce avec fermeté la détérioration continue du service public d'électricité à Kinshasa. Selon l'ONG, les coupures intempestives, les délestages prolongés et les pannes généralisées plongent de nombreux habitants dans l'obscurité pendant des semaines entières. Cette situation, déclare la nouvelle société civile, met en péril la vie quotidienne des populations, paralyse les activités économiques et compromet gravement l'accès aux services essentiels tels que la santé et l'éducation. On écoute les coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, Jonas Tumbela, au micro de Jeff Ngai.
Nous exigeons une explication claire et transparente de la part des dirigeants de la SNEL sur les causes réelles de cette crise énergétique. La mise en place d'un plan d'urgence pour établir un approvisionnement stable en électricité, la suspension immédiate de facturation aux abonnés non desservis et un mécanisme de compensation pour le désagrément subi. Une réforme structurelle de la gestion de la SNEL afin d'en faire un service véritablement au service des citoyens. La démission immédiate des dirigeants de la SNEL, responsables de la gestion défaillante et de la souffrance de la population quinoise. Si aucune amélioration n'est constatée dans le bref délai, la nouvelle société civile congolaise se réserve le droit d'intensifier des actions citoyennes pour faire entendre cette revendication des consommateurs quinois. Trop, c'est trop.
Actualité internationale.
La police zimbabwéenne a annoncé ce mardi l'arrestation de 95 personnes accusées de promouvoir la violence publique pour avoir participé la veille à une manifestation appelant le président Emmerson Mnangagwa à quitter le pouvoir. Le groupe a comparu dans la matinée au lendemain de cette manifestation mobilisée par un ancien combattant de la guerre d'indépendance et du parti ZANU-PF au pouvoir depuis 45 ans dans ces pays pauvres d'Afrique australe. Ils sont accusés d'avoir jeté des pierres sur la police et temporairement barré une importante artère selon l'accusation.
L'invité.
Le 31 mars, c'est la journée zéro déchet des Nations Unies. À cette occasion, nous recevons comme invité Prince Ryan Kolongo. Ces jeunes des AICD appuient aux initiatives communautaires de développement durable une ASBL de la ville de Goma. Prince Ryan parle du projet de transformation des déchets textiles en objets d'art. Le but étant de lutter contre la pollution de l'environnement et également promouvoir l'autonomisation de la jeunesse. Il s'entretient avec Chris Mukand.
Kolongo, Prince Ryan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes jeune de l'AICD et c'est quoi AICD?
AICD, c'est une organisation, ça veut dire appui aux initiatives communautaires de développement durable. Et donc, on s'occupe des initiatives qui peuvent réduire les réchauffements climatiques pour améliorer l'environnement pour toute la communauté.
Ce 31 mars 2025, il y a ONU Zéro Déchet. Comment la jeunesse au niveau de AICD travaille dans cette perspective?
Oui, les déchets textiles sont un poison pour les vies de tous les habitants. Parce que beaucoup de gens brûlent ces déchets-là sans se soucier des conséquences, alors que ces déchets, les matières textiles contiennent des additifs toxiques et aussi qui peuvent être contenus dans la peinture ou dans les fibres. Et tout cela, quand c'est brûlé ou jeté, ça revient plus tard empoisonner l'eau que nous buvons ou l'air que nous respirons. Et donc, en tant que jeunes de la société AICD, nous avons pris cette journée pour montrer qu'à partir de ces déchets textiles que tout le monde néglige, les gens se débarrassent de ça, on peut arriver à faire des œuvres d'art. On a fait quelques tableaux et c'est aussi une occasion pour montrer que faire des tableaux d'art avec les déchets textiles, c'est aussi un moyen d'autonomiser la jeunesse puisque ces déchets ne coûtent presque rien, on les trouve facilement. Mais quand vous faites un tableau, vous pouvez les vendre à 30 dollars ou même 100 dollars si c'est dans une exposition.
Et concrètement, le travail se fait comment? Des déchets en tableau?
On va chez les tailleurs pour collectionner les bouts de tissu que eux peuvent jeter ou brûler. Alors après ça, on les ramène à la maison, on va découper et puis on va les coller sur un tableau et cela permet d'avoir un résultat d'un tableau vraiment beau.
Et c'est quoi le motif qui peut apparaître sur les tableaux? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec quelle représentation par exemple?
Le choix est vraiment large, mais on a choisi de faire un masque africain et une silhouette d'une femme africaine. Mais on peut aller vraiment beaucoup plus loin et la seule limite c'est l'imagination.
Donc vous avez besoin de quels matériaux?
Juste de la colle et une toile et quelques bouts de tissu et déjà on peut avoir un tableau.
Peut-on dire que vous en êtes à votre première expérience ou il y a déjà du chemin déjà parcouru?
On est au début. On a déjà fait des tableaux bien sûr avec des objets recyclés mais c'est la première fois d'utiliser du textile.
Ainsi, vous croyez contribuer à la propreté de la ville et à la sauvegarde de l'environnement?
Bien sûr, seul on ne peut rien faire, mais si cette initiative était adoptée par une majorité de personnes, ça contribuerait grandement à la réduction de la pollution des déchets textiles.
Et pour l'instant, comment se constitue l'équipe de ces jeunes qui s'adonnent à cette transformation?
Pour l'instant, il y a ceux qui s'occupent de recueillir les déchets textiles. Certains vont en faire des paillassons et puis il y en a d'autres qui vont faire des objets d'art.
Et le travail est coordonné comment? Vous travaillez chacun dans son coin ou vous êtes réunis dans un cadre spécifique?
C'est plutôt chacun dans son coin parce que chacun a sa propre vision artistique, si je peux dire comme ça.
Et quelles sont les perspectives de ce projet?
Premièrement, c'est de montrer que on peut réduire la pollution des déchets textiles en faisant des œuvres d'art. Deuxièmement, rendre autonomes certains jeunes en leur offrant une source de revenus. Et peut-être plus tard, ouvrir même des expositions dans des ateliers où les gens pourront venir acheter ces œuvres d'art pour les garder chez eux.
Prince Rayane, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Voilà, avec plaisir.
Voilà, notre invité était avec Chris Mukanda. Ainsi prend fin cette édition du journal, coordonnée par Élisée Chikota et supervisée par Martin Sebujangwe. Polydor Pasunga assurait la mise en onde et Grâce Amzati Massanzi était à la présentation. Merci d'avoir été des nôtres.